connecté avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité. 33 9 693 693 70.
Anne Campner.
Bonjour à tous, bienvenue. Pendant une heure, l'antenne vous appartient. Dans une demi-heure, débat sur la réforme de la Constitution en Côte d'Ivoire. Le président a promis un référendum sur la question cette année, mais pour l'instant, on ne sait pas quand. Et d'ailleurs, on ne connaît pas grand-chose du projet. Cela inquiète l'opposition qui réclame plus de transparence. Et vous, que pensez-vous de cette réforme? Est-elle nécessaire? Et plus généralement, qui faut-il consulter lors de réformes constitutionnelles? Vos avis nous intéressent, appelez-nous. Et avant de lancer le débat, vos questions à la rédaction. On accueille tout de suite Souma, bonjour.
Oui, bonjour à Anne et bonjour à tous vos auditeurs.
Vous avez une question sur la Syrie?
Oui, trois questions même, Anne. Alors, Washington et Moscou viennent de conclure un accord pour une trêve à Alep, en Syrie. Alors, sur ce sujet, moi, je me demande, comment ces deux pays vont-ils s'assurer du respect du cessez-le-feu en Syrie? Ça, c'est ma première question. Et comment ces mêmes pays, c'est-à-dire les États-Unis et la Russie, se sont-ils mis d'accord? Et quels sont leurs points de divergence, Anne?
Alors, pour vous répondre, Toufik Benaïchou, journaliste au service international de RFI. Bonjour Toufik.
Bonjour.
Alors, comment s'assurer que cette trêve est respectée en Syrie?
Bien, les deux pays ont mis sur point un comité de surveillance du cessez-le-feu. Donc, c'est très technique, c'est des équipes techniques. Donc, c'est une manière de surveiller les choses sur le terrain. Ils disposent aussi, les deux pays, de drones pour surveiller les choses. Donc, si on veut s'assurer que le cessez-le-feu est bien observé ou au contraire pas du tout, on a les moyens de le faire. Et c'est fait.
Et on va voir directement, ils ne s'appuient pas sur leur relais sur place.
Non, ils s'appuient sur leur relais sur place aussi. Mais par exemple, vous prenez les Russes qui sont entrés dans la danse aux côtés du régime syrien de Bachar el-Assad. Eux ont créé un comité de surveillance du cessez-le-feu, par exemple. Leurs adversaires en face ont fait pareil. Ensuite, il y a des échanges d'informations. Voilà comment ça fonctionne.
D'accord. Et alors, comment se sont passées justement les discussions entre les États-Unis et la Russie pour parvenir à cette trêve?
Alors, le problème, c'est veut-on vraiment une trêve? Ce qui s'est passé, c'est que on observe que pour la ville d'Alep, d'ailleurs, je rappelle que c'est la deuxième ville du pays, c'est la capitale économique même de la Syrie, donc c'est une ville extrêmement importante et d'un point de vue stratégique, c'est une ville absolument incontournable, parce que si vous contrôlez Alep, eh bien, l'opposition islamiste, c'est-à-dire Daesh, c'est-à-dire Al-Qaïda, Al-Nusra, donc en Syrie, tous ces groupes-là, eh bien, ne pourront plus être approvisionnés en hommes et en matériel à partir de la frontière turque. Donc, c'est pour ça que Alep est un enjeu extrêmement important.
Et aujourd'hui, cette ville d'Alep, elle est contrôlée un peu par les deux camps.
Alors, il y a eu une offensive lancée récemment par les troupes du régime de Bachar el-Assad qui a fait que l'opposition islamiste a perdu énormément de terrain dans la ville d'Alep. Alep, et on a beaucoup de spécialistes estimaient que la chute d'Alep aux mains du régime de Bachar el-Assad était plus qu'une question de semaines, voire même de mois. Donc, ça mettait l'opposition, si vous voulez, islamiste ou djihadistes dans de beaux draps. Ça gêne aussi les parrains de cette opposition, c'est-à-dire notamment l'Arabie Saoudite, la Turquie, on va y revenir parce que c'est très important, les Émirats Arabes Unis ou le Qatar. Donc, si vous voulez, il y a des diplomates qui laissent entendre qu'en fait, le cessez-le-feu, qu'il soit rompu, arrange l'opposition, puisque ça permet de gêner encore plus l'armée de Bachar et donc de garder beaucoup plus le contrôle de certains quartiers dans la ville d'Alep, qui encore une fois est incontournable pour la résolution du conflit. La deuxième chose qu'on peut observer, c'est que cette trêve a été rompue à partir du moment où on négociait l'avenir de Bachar el-Assad. Bachar el-Assad et son régime ont dit « pas question que vous discutiez de mon avenir à moi, président de la République ». C'était pourtant ce qui avait été convenu dans l'ordre du jour des négociations. Mais c'est à partir du moment où on abordait ce point-là que le cessez-le-feu volait en éclats.
Et alors comment les États-Unis et la Russie finalement ont réussi à se mettre d'accord et à pousser chaque camp à parvenir à cesser les combats, au moins pendant quelques jours ?
Alors, donc vous l'avez compris, il faut tenir à la fois compte des intérêts de l'opposition djihadiste et de leurs alliés, c'est-à-dire des intérêts de l'Arabie Saoudite, de la Turquie, pour ne citer que cela. Et d'un autre côté, il faut tenir compte de l'intérêt du régime et de l'intérêt des Russes qui les soutiennent. Donc c'est une question d'équilibre. Ce qui se passe en fait, c'est que le régime de Damas considère qu'il n'y a aucune raison de faire un cadeau à cette opposition, puisque sur le terrain, ils ont le vent en poupe, grâce notamment à l'aide des Russes. Eh bien, le régime de Bachar el-Assad tente de pousser son avantage, de prendre entièrement le contrôle d'Alep et de ses environs, et donc ensuite de pouvoir négocier en position de force. Donc c'est un jeu d'équilibre entre les États-Unis et la Russie. Ensuite, il faut voir les intérêts des Russes et des Américains, donc jusqu'à quel point ils sont convergents. Le point de convergence pour aller très vite, c'est il faut surtout évidemment se défaire de Daesh ou d'Al-Qaïda dans la région, ce qui n'est pas possible pour le moment, puisqu'il faudrait, on le sait tous, envoyer des troupes sur le sol, personne n'est prêt à le faire. Donc il faut essayer de contenir la progression de Daesh. Les Américains le désirent, les Russes évidemment le désirent aussi, mais ensuite, jusqu'à quel point ? Ensuite, les intérêts divergent. Les Russes aimeraient garder un régime traditionnel, si vous voulez, en tout cas qui sauvegarde leurs intérêts. Je rappelle que c'est essentiellement un port, celui de Latakia, et une base navale extrêmement importante, qui est le seul débouché de la Russie en mer Méditerranée. Voilà, donc après, c'est une histoire de mise au point d'un équilibre quoi, entre les deux grandes puissances et leurs intérêts.
Merci Toufik Ben Aïchouch et merci Souma de nous avoir appelés. La prochaine question nous vient de Conakry. Bonjour Tierno.
Bonjour.
On vous écoute.
L'Union européenne et la Turquie viennent de signer un accord à travers lequel les citoyens turcs sont exemptés de visa d'entrée en Europe. Donc à ce sujet, j'ai trois questions. Cet accord peut-il contribuer à la résolution de la crise des migrants en Europe ? Deuxième question, l'Union européenne ferme-t-elle les yeux sur la question des droits de l'homme en Turquie ? Et troisièmement, cet accord est-il un pas vers l'intégration de la Turquie à l'Union européenne ?
On va essayer d'en savoir plus avec Jean Marcoux, directeur du département de relations internationales à Sciences Po Grenoble. Bonjour.
Bonjour.
Alors déjà, on peut peut-être préciser que cet accord est toujours négocié en ce moment. Les Européens ont posé des conditions et il reste encore quelques points à éclaircir, Jean Marcoux.
Oui, en fait, cet accord est effectivement fait pour faciliter la gestion de la crise migratoire par l'Europe. En réalité, l'Europe débordée en quelque sorte par la crise des migrants l'année dernière a négocié dans l'urgence cet accord avec la Turquie. Et l'idée, effectivement, est de fixer les migrations dans les pays voisins de la Syrie, en particulier de bloquer les vagues de migration syrienne, enfin les vagues de réfugiés syriens qui suivent les combats dont vous parliez, qui sont la conséquence en quelque sorte des combats dont vous parliez tout à l'heure. Et de ce point de vue-là, il y a eu un accord qui a permis effectivement de bloquer les dernières vagues de migration, notamment par un système de réadmission des réfugiés ou des migrants qui passent dans les îles grecques, et par un système d'échange, puisque la Turquie également a la possibilité, en échange des migrants qu'elle reçoit en réadmission, d'envoyer en Europe des réfugiés qu'elle a accueillis en Turquie. Et pour l'instant, il y a plusieurs centaines de personnes qui ont été, environ 500 personnes qui ont été réadmises depuis l'accord de mars, et 125 réfugiés syriens qui ont été envoyés principalement en Allemagne, aux Pays-Bas, en Finlande et en Suède.
Alors la Turquie a aussi négocié d'autres points, notamment donc la suppression de visa pour les séjours courts de ses ressortissants en Europe. Plusieurs ONG ont dénoncé cet accord, soit en estimant que l'Union européenne se débarrassait un peu de la question des réfugiés, soit pour ce qui se passe actuellement en Turquie, où le régime se durcit un petit peu contre les opposants, les journalistes et plusieurs intellectuels. Est-ce qu'effectivement, comme le disent certaines ONG et comme le demande Tierno, l'Union européenne ferme les yeux sur les droits de l'homme en Turquie?
D'une certaine manière, oui, parce que je dirais que la situation des droits de l'homme n'a jamais été aussi mauvaise depuis ces derniers mois. Vous faisiez allusion effectivement à des atteintes à la liberté de la presse. Hein. Il y a deux journalistes de Cumhuriyet, le quotidien kémaliste, qui viennent d'être condamnés à plus de 5 ans de réclusion pour avoir divulguer soi-disant des secrets d'État. Il y a des atteintes à la liberté de communication. Il y a aussi un phénomène de centralisation du pouvoir qu'on vient de voir encore d'une certaine manière, hein, dans la démission d'Ahmet Davutoğlu, qui finalement menait une politique qui déplaisait au président de la République, dont le projet d'établir un régime présidentiel qui risque de renforcer justement cette rigidification, cet autoritarisme qui s'est développé depuis quelques années en Turquie et auquel vous faisiez allusion. Ce qu'on peut observer notamment, c'est que l'Union européenne, qui rend chaque année un rapport d'évaluation, avait rendu en octobre un rapport d'évaluation qui était particulièrement critique, probablement l'un des rapports les plus critiques vis-à-vis de l'évolution de l'état de droit et de la démocratie en Turquie.
Et alors justement, dans ces conditions, est-ce que l'Union européenne peut vraiment songer à faire entrer la Turquie dans l'Union? Est-ce que cet accord, c'est un pas supplémentaire, comme le suggérait Tierno, notre auditeur?
Je dirais que c'est là toute l'ambiguïté, parce que je pense qu'on a mélangé dangereusement deux choses dans cet accord. Le problème d'une part de la crise migratoire et d'autre part la question de l'adhésion. Et d'une certaine manière, l'Union européenne a négocié dans l'urgence et elle a été un petit peu prise à son propre piège, parce que au moment même où elle critiquait effectivement la candidature de la Turquie, où elle rendait un rapport critique, hein, ce rapport a été rendu en octobre dernier, finalement elle a négocié, et dans la négociation, l'un des éléments justement importants pour la Turquie, c'est effectivement la relance des négociations de sa candidature par l'ouverture notamment de nouveaux chapitres de négociations, et justement de cette mesure qui est centrale, qui est la levée des visas pour les ressortissants turcs, qui doit être encore discutée, qui devait d'ailleurs être discutée lors d'une réunion qui devait se tenir vendredi, et cette réunion ne se tiendra pas vendredi, justement à cause de la crise qui a été ouverte par la démission d'Ahmet Davutoğlu et du fait que le parti au pouvoir doit tenir un congrès extraordinaire le 22 mai prochain pour désigner un successeur à Ahmet Davutoğlu.
Au Premier ministre. Merci beaucoup Jean-Marc Coux, directeur des relations internationales à Sciences Po Grenoble. Merci aussi à Tierno. N'hésitez pas à nous appeler vous aussi pour poser vos questions sur l'actualité. 33 9 693 693 70. C'est le numéro qu'a composé Mokhtar Fafaya. Bonjour.
Bonjour Anne, et bonjour à nos invités et à tous les auditeurs de la radio mondiale. Goldsmith, conservateur, et Sadiq Khan, favoriste, se sont présentés à l'élection de la mairie de Londres. Pourquoi la religion du candidat Khan est devenue un sujet central de la campagne?
Alors c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler de la religion de Sadiq Khan plus que de celle de n'importe quel autre candidat lors de la campagne pour les élections municipales à Londres, au Royaume-Uni. Sarah Picard, vous enseignez la civilisation britannique à l'université de la Sorbonne à Paris. Bonjour.
Bonjour.
Comment expliquer ce phénomène?
Moi, je dirais que c'est surtout en France et à l'étranger qu'on s'intéresse à la religion de Sadiq Khan. Et que dans l'ensemble, le fait que Sadiq Khan soit musulman ne préoccupe pas beaucoup les Londoniens qui vivent dans une vie multiculturelle, multiconfessionnelle, multiethnique. C'est une ville qui vibre le cosmopolitanisme. Et donc, et dans une ville aussi, on peut montrer les signes religieux à l'école, au travail. Et donc, les Londoniens ont l'habitude de vivre les différences et dans l'ensemble, on les accepte. Et donc, c'est le programme de Sadiq qui les intéressait beaucoup plus, le logement et les transports. Et c'est le candidat de droite conservateur, Sadiq Khan, le grand perdant dans ces élections, qui avait sous-entendu que Sadiq Khan avait des liens avec les extrémistes djihadistes. Lui, il était très très critiqué pour cette position, ses sous-entendus envers Sadiq Khan. Et donc il a sans doute perdu des voix à cause de ses critiques. Et donc, et depuis, il a été très critiqué, Smith, pour ses propos. Et par ailleurs, donc, on fait beaucoup plus confiance en Sadiq Khan dans les sondages d'opinion pour la sécurité de Londres, pour gérer les potentiels attentats terroristes, etc.
Et lui-même, et donc, d'ailleurs, lui-même avait fait de son parcours un symbole pendant la campagne. Il l'a utilisé lui aussi.
Bah, de façon très minime, il a beaucoup plus insisté sur ses origines, très modestes, fils de chauffeur de bus, habitant d'HLM, etc., que sur sa religion. Mais c'est à Londres, ce qui est difficile à croire ou à comprendre peut-être depuis la France, c'est que sa religion était un point fort pour lui, dans le sens que il était un candidat qui représentait les différences à Londres, qui était une ville de gauche, hein, multiculturelle. Et donc, ce n'était pas un problème, si vous voulez, dans l'ensemble pour les Londoniens. Voilà.
Et alors, comment vous expliquez que la presse étrangère se soit autant intéressée à ça, plus que la presse britannique ?
Parce que je pense que la question de la religion est un sujet de jour en France, bien sûr, par rapport aux signes religieux et comment on vit les attentats à Bruxelles et à Paris. Mais par exemple, après les attentats à Londres en 2005, il n'a pas eu une sorte de critique des musulmans. Au contraire, la ville s'est ressemblée autour de ces communautés et n'était pas du tout vécu comme une menace, si vous voulez, dans l'ensemble. Et donc, pour Sadiq Khan, sa religion en Angleterre n'est pas la première question qu'on se pose quand on pense à lui. On pense au fait qu'il a fait le choix de faire une campagne où il disait tout le temps qu'il fondait sur l'unité, où il voulait rassembler les gens au lieu de les diviser, comme son adversaire, Zach Smith, a tenté de faire.
Mokhtar Fafaya, vous aviez d'autres questions, je crois.
Oui, j'en ai deux petites questions encore. La suivante, comment se fait-il qu'aucun candidat ne critique le bilan de Boris Johnson, le maire sortant?
Alors, on va répondre d'abord à cette question-là. Sarah Picard, Boris Johnson, qui a passé 8 ans à la tête de la mairie de Londres, ultra-libérale, il quitte donc la mairie parce qu'il vise la direction du Parti conservateur, peut-être même le poste de Premier ministre dans quelques années. Il a été vraiment si peu critiqué que ça pendant la campagne?
C'est vrai, c'est une excellente question parce que c'est vrai que dans l'ensemble, Boris Johnson reste un maire populaire chez les Londoniens. C'est une personnalité médiatique qui a une génie de la communication et il a su plaire aux électeurs à gauche, donc pas son propre parti politique, comme de droite. Et donc Sadiq Khan a fait le choix de ne pas vraiment le critiquer, hein, qui est, comme on vient de suggérer, il a mené une campagne positive. Il a même fait des compliments sur Boris Johnson, il a dit qu'il vendait bien notre ville et que ça ne le gênait pas, qu'il avait attiré autant de milliardaires à Londres, parce qu'il fallait bien le financement privé extérieur. Et donc Sadiq Khan, il sait bien qu'il va falloir attirer ce financement-là, comme Boris Johnson a su faire, être une grande personnalité, hein, comme le précédent maire, mais aussi celui d'avant Boris Johnson, Ken Livingstone. Et Sadiq Khan, il a fait le choix, comme d'autres, de ne pas vraiment critiquer, c'est vrai, Boris Johnson. Mais on aurait pu faire des critiques, par exemple sur le frais des transports ou le manque de logements modestes à Londres. Mais c'est surtout, comme vous avez évoqué tout à l'heure, Sadiq Khan sait très bien qu'il va falloir travailler avec le Premier ministre britannique.
Donc, et avec éventuellement donc Boris Johnson. Merci Sarah Picard, je suis désolée de vous interrompre. On n'a pas le temps de développer davantage ces questions et merci beaucoup Mokhtar Fafaya de nous avoir appelé. Très bonne journée.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.
Priorité santé.
Thomas Chauvin.